Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes et à tous, et en particulier aux élèves de terminale du lycée Lamartinière de Lyon qui nous rendent visite aujourd'hui et qu'on est avec leur professeur. Et qu'on est très heureux. Merci pour eux et pour elles. Et qu'on est très heureux d'accueillir. J'ai un peu l'impression, du coup, m'être transformé en animateur de jeux radiophoniques. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, il n'y a pas 1000 euros à gagner, enfin on ne m'a pas prévenu. Bon, soyons sérieux un peu, parce qu'on va parler de choses sérieuses aujourd'hui. Eh oui, il faut bien des fois un peu. La semaine dernière, vous vous en souvenez, nous nous sommes quittés sur un constat ambigu. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen était moins universelle qu'on ne le pense. Elle visait avant tout à construire la souveraineté de la nation face à celle du roi et à affirmer l'égalité des citoyens en détruisant le système inégalitaire et hiérarchique de l'Ancien Régime. Mais elle n'affirmait nullement l'accès de tous à la citoyenneté et donc à l'égalité. De nombreuses catégories de personnes allaient d'ailleurs être écartées des droits politiques par la Constitution. Les femmes, bien sûr, les esclaves, les gens de couleur, mais aussi les pauvres, en raison de la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs. Le cas des colonies était particulièrement ambigu, car il n'était pas du tout évident aux yeux des députés que les colonies appartenaient au même régime politique et juridique que la France. D'ailleurs, elles n'avaient pas participé au processus de rédaction des cahiers de doléances et d'élections aux États généraux. Alors, les colonies des Antilles avaient pris l'initiative d'envoyer des délégués, des colons blancs, bien entendu, et l'Assemblée avait accepté en juillet d'en intégrer une dizaine, qui donc siégeaient en août, mais de toute évidence, les colonies n'étaient pas très présentes à l'esprit de la plupart des députés. Toutefois, la forme très générale que les députés avaient donnée à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'avais terminé par ce point, eh bien cette forme ouvrait la voie à des débats sur l'élargissement de la citoyenneté. La proclamation de l'égalité devenait dès lors le fondement normatif de litiges possibles, suscitant des conflits qui allaient parcourir tout le XIXe siècle, par exemple autour de ce qu'on appelle justement le suffrage universel et de son extension, de son élargissement, et notamment de l'accès des femmes à la citoyenneté active. Dans l'immédiat, la contradiction la plus évidente, peut-être la plus criante, était le maintien de l'esclavage dans les colonies. Raison pour laquelle j'ai interverti deux séances, et c'est la question dont nous allons parler aujourd'hui. Comment les députés pouvaient-ils affirmer sans contradiction que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, sans abolir l'esclavage, alors que plus de 700 000 esclaves vivaient dans les colonies françaises, dont 500 000 à Saint-Domingue, la grande île sucrière. Longtemps, l'historiographie de la Révolution française, à vrai dire, s'est peu intéressée à cette question. Et il revient sans doute à Yves Benoît, qui n'était pourtant pas un historien professionnel, mais plutôt un journaliste engagé, doté d'un chercheur rigoureux, d'avoir remis la question de la colonie et des colonies et de l'esclavage au cœur des débats historiographiques et mémoriels sur la Révolution, grâce à plusieurs travaux importants, et notamment à ce livre « La Révolution française et la fin des colonies » publié en 1987. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que c'est l'inverse. Les travaux sur cette question forment un domaine de recherche dense, dynamique, dont témoigne par exemple la très récente synthèse de Marc Bélissa qui porte un titre presque identique, « La Révolution française et les colonies ». Bien sûr, on peut objecter que la Révolution a bien aboli l'esclavage en février 1794 par le décret de Floréal en II, avant que Napoléon Bonaparte ne le rétablisse en 1802. Vous connaissez cette histoire, et on peut alors opposer la République abolitionniste en 1794, puis à nouveau en 1948, en 1848, pardon, fidèle à ses principes d'égalité universelle, et d'autre part, la monarchie constitutionnelle, le consulat et l'empire. Sauf que les choses, évidemment, ne sont pas tout à fait aussi simples. Car si la Convention a bien aboli l'esclavage en 1794, c'était essentiellement sous la pression des événements suite à l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue à l'été 1791. Insurrection devenue une véritable révolution et qui a conduit les commissaires de la République envoyés sur place à abolir l'esclavage dans l'île dès l'été 1793 afin de rétablir la paix et surtout d'obtenir le ralliement des soldats noirs contre les Anglais et les Espagnols qui avaient envahi Saint-Domingue. Alors, dès lors, plusieurs questions se posent qui sont au cœur des débats actuels. Premièrement, l'universalisme proclamé des droits de l'homme et du citoyen, affirmé avec tant de force en août 1789, n'était-il qu'un leurre, protégeant les privilèges des colons, les droits de l'homme blanc? Ou doit-on, à l'inverse, considérer que les Lumières ont fourni aux esclaves et aux libres de couleur, dans les colonies, les arguments et les ressources pour réclamer et obtenir leur émancipation? Ou encore, ce qui est une façon un peu différente de poser la même question, lorsque la Convention a finalement aboli l'esclavage en 1794, a-t-elle été fidèle aux idéaux que la Révolution avait proclamés depuis le départ, ou ne l'a-t-elle fait qu'en réponse au soulèvement des esclaves? Autrement dit, l'abolition de l'esclavage est-il le résultat des combats des Lumières, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'engagement des abolitionnistes, ou a-t-il été avant tout le fruit du combat des esclaves eux-mêmes, c'est-à-dire le résultat d'une insurrection violente nécessaire pour arracher la liberté à la pointe des fusils? Enfin, une troisième question qui dépend en partie des réponses aux deux précédentes, la révolution de Saint-Domingue, qui ne s'achève pas loin de là en 1794, mais conduit, vous le savez, à l'indépendance d'Haïti en 1804, eh bien, cette révolution n'est-elle pas porteuse d'un universalisme plus élevé, plus concret que celui de la Révolution française elle-même, un universalisme intégrant le refus des distinctions fondées sur la couleur de peau et condamnant toutes les formes de domination coloniale? Beaucoup de questions, vous le voyez, pour une seule séance. Mais revenons pour commencer à la scène originelle, celle de l'été 1789. Alors, ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que la question de l'abolition n'a quasiment pas été débattue à l'Assemblée à l'été 1789. En revanche, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne vous dis pas tout, c'est qu'elle l'a été dans l'espace public. Elle l'a été dans l'espace public, notamment grâce au rôle joué par les membres de la Société des Amis des Noirs, cette société fondée en 1788 pour mener le combat abolitionniste. Pour ses membres, la Déclaration des droits de l'homme impliquait l'abolition, du moins l'abolition de la traite. C'est le cas, par exemple, d'un article de Mirabeau, en août 1789, dans le Courrier de Provence, dans lequel il remarque ironiquement qu'aucun représentant de Saint-Domingue n'a proposé un amendement qui aurait précisé que les hommes blancs seuls naissent et demeurent libres. D'autres figures importantes de la Société des Amis des Noirs cherchaient à mobiliser l'opinion sur le sujet, notamment Condorcet, Brissot ou encore Grégoire. Au cœur de cette mobilisation, une rumeur enfla à partir de l'automne 1789, Mirabeau, qui était alors l'orateur le plus en vue, je vous le rappelle, le plus brillant, le plus influent de l'Assemblée, Mirabeau préparait un grand discours qu'il allait prononcer à l'Assemblée pour dénoncer l'esclavage et réclamer l'abolition de la traite. Et de fait, ce n'était pas une rumeur. Dès l'automne, Mirabeau avait mis au travail l'équipe de collaborateurs qui lui rédigeait ses discours et il avait demandé des conseils et des renseignements à Thomas Clarkson, qui était alors à Paris et qui était, je vais parler de lui très rapidement l'autre jour, qui était un des principaux leaders dirigeants de la Société anglaise pour l'abolition de la traite. Clarkson lui fournit des renseignements très précis, des argumentaires, et grâce à lui, Mirabeau fit même fabriquer une maquette de vaisseau négrier qui lui permettait d'illustrer de manière percutante et pédagogique les conditions inhumaines dans lesquelles les captifs étaient transportés en Amérique. Cette maquette existe toujours, elle est conservée, c'est celle que vous voyez ici. Le discours fut rédigé, repris, corrigé pendant tout l'hiver. Mirabeau devait le prononcer le 1er mars, lors d'une séance consacrée à la traite. Mais au dernier moment, l'ordre du jour fut modifié, et finalement Mirabeau ne prononça pas son discours devant l'Assemblée. À la place, un comité colonial fut créé qui devait s'occuper de la question et qui était très majoritairement constitué de partisans du maintien de la traite et de l'esclavage. Mirabeau n'insista pas. En revanche, le soir, il alla à la Société des Amis de la Constitution, c'est-à-dire le Club des Jacobins, et il lut son discours pendant plus de 3 heures. Et comme il n'avait pas terminé, il est retourné le lendemain pour conclure. Alors, ne vous plaignez pas quand je dépasse de 5 minutes. Vous voyez que j'ai quand même largement de la marge. Bon, vous me direz aussi que je n'ai pas l'éloquence de Mirabeau, c'est un autre problème. On peut reconstituer, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reconstituer très précisément le discours de Mirabeau, le discours donc, qu'il n'a pas tenu à l'Assemblée, qu'il a prononcé aux Jacobins, grâce, d'une part, à l'édition donnée au début du XIXe siècle par son fils naturel, Lucas de Montigny, et au manuscrit conservé à la bibliothèque de Genève. Le discours était très éloquent, il comportait de grands moments de bravoure, des envolées lyriques, comme Mirabeau les affectionnait, mais aussi une description précise et documentée des horreurs de l'esclavage et surtout de la traite, description qui devait faire frissonner son auditoire et le remplir d'effroi. Le plus intéressant, peut-être, pour nous, c'est que le discours était parcouru par une tension entre l'affirmation ferme de l'universalité des droits et les recommandations plus floues auxquelles aboutissait Mirabeau. Il appelait à l'interdiction de la traite, mais non à l'abolition de l'esclavage même, ou seulement graduellement, en commençant par améliorer les conditions de vie des esclaves. La difficulté apparaissait dès les premières lignes du discours. Je mets juste l'édition. Mirabeau commençait par rappeler le principe de la commune nature humaine, sur laquelle reposait l'universalité des droits. Je cite « Je ne dégraderai ni cette assemblée, ni moi-même, en cherchant à prouver que les nègres ont droit à la liberté. Vous avez décidé cette question puisque vous avez déclaré que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Et ce n'est pas de ce côté de l'Atlantique que des sophistes corrompus oseraient soutenir que les nègres ne sont pas des hommes. » La cause semblait entendue, et pourtant Mirabeau, immédiatement, apportait une nuance. Pourquoi l'Assemblée n'avait-elle pas aboli l'esclavage en août, demandait-il. Sa réponse, c'est que l'antique existence d'une odieuse institution a tellement perverti l'ordre de la nature qu'on ne peut réparer le mal qu'en rétrogradant avec lenteur. C'est que des hommes habitués depuis longtemps à l'esclavage et dans l'âme desquels tous les vices des esclaves ont nécessairement jeté des racines profondes doivent renaître et grandir pour devenir des hommes libres. C'est qu'enfin, en les affranchissant sans précaution de la tyrannie de leur maître, on les exposerait à une tyrannie non moins impérieuse, à la tyrannie des passions que leur a donnée une société dont ils n'ont reçu que des vices sans lumière, des souffrances sans compensation. Alors, l'argument aujourd'hui nous paraît totalement irrecevable. Si l'esclavage est une institution abominable, contraire aux droits de l'homme, pourquoi ne pas la supprimer immédiatement? Or, Mirabeau, sur ce point, était parfaitement fidèle à la position de la Société des Amis des Noirs, qui distinguait clairement entre l'abolition de la traite, qui était une exigence immédiate, et celle de l'esclavage, qui devait se faire par extinction graduelle. L'argument visait à rassurer, ceux qui craignaient un effondrement de l'économie de plantation, je vais y revenir, et donc à se présenter en quelque sorte en interlocuteur raisonnable. Mais il reposait aussi sur une conviction, sur la conviction que l'accès à la raison universelle ne pouvait se faire que progressivement, qu'il n'était ni possible ni souhaitable d'affranchir immédiatement des personnes sans éducation, vous avez entendu, Mirabeau dit « sans lumière », rendues barbares par l'esclavage, dominées par les passions brutales et par le ressentiment. Les esclaves étaient des victimes pour Mirabeau. Leur état actuel n'était nullement lié à leur nature ou à leur couleur de peau. En fait, ils avaient été dégradés, dénaturés par la faute des Européens. Mais leur retour dans la société des hommes ne pouvait se faire que par un processus lent de civilisation. Si on considère que cette position était celle des auteurs les plus radicalement anti-esclavagistes de l'époque, on conçoit la puissance des préjugés et les limites de l'universalisme, ou pour être plus exact, le conflit entre l'universalisme, l'universel du droit et l'universel de la civilisation, pour faire jouer les catégories que j'ai essayé de mettre en place les semaines dernières. Alors une telle prudence était de toute façon inutile. Même sous cette forme, la position de Mirabeau apparaissait tellement dangereuse qu'il ne put pas prononcer son discours devant l'Assemblée. De toute évidence, les adversaires de l'abolition craignaient son éloquence, craignaient l'enthousiasme moral que Mirabeau était capable de susciter chez les députés. Le 8 mars, après un rapport du tout nouveau comité colonial, l'Assemblée vota sans débattre une motion qui maintenait le statu quo sans évoquer la traite et l'esclavage, suscitant chez les députés, on a du mal à le concevoir, un certain enthousiasme, semble-t-il, ou du moins un lâche soulagement. À partir de là, Mirabeau ne semble plus se préoccuper de la question. Il s'éloigne de la Société des Amis des Noirs jusqu'à sa mort un an plus tard. La société elle-même devient moins active. Les partisans de l'abolition avaient laissé passer leur chance. Alors, question, que s'est-il passé? On peut bien sûr s'interroger sur la détermination de Mirabeau. Pourquoi n'a-t-il pas mené le combat jusqu'au bout? Pourquoi n'a-t-il pas pris la parole à l'Assemblée? On ne sait pas. Sans doute avait-il conscience que les partisans de l'abolition étaient très minoritaires et qu'il s'agissait d'un combat perdu d'avance. Certains ont même suggéré qu'il avait pu être acheté par les milieux coloniaux, ce qui n'est pas totalement impossible. Le plus probable, néanmoins, comme le suggère Marcel Dorini, qui a donné une excellente édition du discours, c'est que Mirabeau était alors en train de travailler à de nouvelles alliances au sein de l'Assemblée et que le combat pour l'abolition ne correspondait plus à ses objectifs politiques du printemps 1790. En prononçant son discours aux Jacobins, il pouvait à la fois s'enorgueillir d'un succès moral et rhétorique sans s'encombrer politiquement d'un combat qui risquait de l'affaiblir. Mais l'essentiel n'est pas là. En fait, on ne comprend rien à cette histoire si on néglige la mobilisation massive des adversaires de l'abolition. Depuis longtemps, les historiens et les historiennes ont bien identifié l'existence d'un lobby colonial, celui des colons et des planteurs de Saint-Domingue, mais aussi de la Guadeloupe, de la Martinique, qui possédaient des relais importants en métropole et au sein de l'Assemblée, et dont Barnave, nommé rapporteur du comité colonial en mars 1790 et une des voix les plus écoutées de l'Assemblée, était le porte-parole officieux. On sait que les colons présents à Paris se réunissaient à l'hôtel de Massiac, et le club Massiac est devenu dans l'historiographie le symbole du parti colonial défendant les intérêts des planteurs. Mais ce n'est pas tout, et cela n'aurait pas suffi. Comme l'a montré dans un article récent l'historienne américaine Lorraine Clay, les milieux économiques et marchands ont joué un rôle fondamental. tout au long de l'automne et de l'hiver 1789-1790. Ils ont publié des dizaines de brochures et d'articles dans les journaux. Ils ont envoyé à l'Assemblée nationale de nombreuses pétitions, qu'on appelait à l'époque des adresses. Les chambres de commerce se sont mobilisées, elles ont été extrêmement actives. Elles ont même nommé des députés extraordinaires qui ont été envoyés à Paris pour jouer un vrai rôle de lobbying. C'est un peu comme à Bruxelles aujourd'hui. Si vous non seulement les milieux marchands des grands ports atlantiques, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Le Havre, proclamaient que la fin de la traite serait leur ruine, et ça on s'y attendait, mais aussi plus largement les municipalités de plusieurs villes du nord et de l'est de la France, comme Lille, Amiens ou Reims, qui s'associèrent au mouvement. C'est un point essentiel à comprendre. Les milieux économiques français étaient persuadés que la prospérité économique de la France dépendait de l'économie de plantation aux Antilles, et ils ont réussi à en convaincre de très nombreux députés. Ils mobilisaient pour cela trois types d'arguments. Premièrement, ils n'hésitaient pas à reprendre les stéréotypes racistes à l'égard des esclaves africains pour contrer le discours humanitaire de la Société des Amis des Noirs. Deuxièmement, ils attaquaient les partisans de l'abolition en les présentant comme des philosophes abstraits, n'ayant aucun sens des réalités, prêts à ruiner la France pour quelques principes moraux. Messieurs les philosophes raisonnent de cela sans se douter des conséquences, ironisait un riche négociant normand, sans savoir qu'il inaugurait ainsi une longue tradition du discours politique opposant aux intellectuels moralisateurs et à leurs principes généreux mais irréalistes le bon sens des intérêts économiques et du patriotisme. Alors, le terme droit de l'hommiste n'existait pas encore, mais sinon ils l'auraient volontiers utilisé. Eux parlaient de philanthropes, et je vous assure que le terme n'était pas un compliment. Des armateurs nantais firent publier une brochure, parmi plein d'autres brochures, je vous en cite une, qui s'appelait « L'ami des colonies aux amis des Noirs », qui affirmait « Amis des Noirs, vous n'êtes point les amis des Blancs, et vous aurez fait perdre à la France ses colonies ». Car, c'était le troisième argument et le plus important, l'économie de plantation reposait sur le travail servile. Abolir la traite, c'était ruiner les colonies, c'était détruire le commerce colonial. Or, celui-ci était effectivement florissant. Lui porter atteinte, disait-il, c'était ruiner la France, dans un contexte économique déjà extrêmement difficile, puisque la Révolution avait hérité des difficultés économiques et financières de la monarchie absolue qui avait conduit à la réunion des États généraux. La France, rappelons-le, était au bord de la faillite, et d'ailleurs les chambres de commerce n'hésitèrent pas à recourir au chantage. Elle refuserait, disait-elle, de contribuer aux emprunts lancés par l'Assemblée si la traite était abolie. Beaucoup de députés, même parmi ceux qui étaient favorables à l'abolition sur un plan moral, étaient inquiets à l'idée de mettre en péril l'œuvre de la Révolution en entraînant une grave crise économique. Bien sûr, ce sont des hésitations qui, aujourd'hui, peuvent paraître presque scandaleuses, mais il faut faire l'effort de situer l'analyse sur un plan historique et non pas moral. Pour beaucoup de députés, l'esclavage colonial était au fond un sujet plutôt nouveau, assez lointain, qui leur paraissait assez marginal. Ils étaient avant tout embarrassés, tiraillés entre leurs principes et l'urgence politique. Vous vous souvenez peut-être d'Adrien Duquesnoy, ce député lorrain que j'ai cité la semaine dernière, parce qu'il était un des seuls à souhaiter que la Déclaration des droits de l'homme s'applique, disait-il, à tous les temps et à tous les pays. Duquesnoy était convaincu que l'esclavage, sur le plan moral, était indéfendable. Mais son journal permet de suivre ses hésitations et ses inquiétudes, presque au jour le jour. Et on s'aperçoit qu'il a été très vite convaincu que l'économie française ne se relèverait pas d'une abolition immédiate de la traite. Il finit même par se persuader que le fait de débattre ouvertement de l'esclavage était un piège ourdi par les contre-révolutionnaires comme l'abbé Maury et qu'il fallait éviter absolument d'en parler pour ne pas sombrer dans le désordre. Pour l'intérêt supérieur de la Révolution, il fallait mettre la question sous le tapis. L'esclavage finirait par être abolie, il en était convaincu. Mais ce n'était pas le moment. C'était trop tôt, trop rapide, trop dangereux. Il fallait d'abord consolider les acquis de la Révolution. Si bien que Duquesnoy se montra très soulagé de la solution proposée par Barnave, consistant à maintenir le statu quo sans le dire explicitement. C'est toute l'ambiguïté de la période. Il est acquis que la question de l'esclavage a bien été soulevée à l'hiver 1789, qu'elle a fait l'objet d'un réel combat d'opinion. Mais néanmoins, il reste difficile de mesurer la place relative qu'elle occupait dans les préoccupations des députés. Il est probable qu'elle apparaissait comme un enjeu symbolique important, mais politiquement mineur face aux urgences du moment, que ce soit la gravité de la situation financière, les conflits religieux, les débats sur le veto royal, etc. Comme l'a souligné David Bell, il faut se méfier de ne pas projeter sur les acteurs politiques de la Révolution une hiérarchie des enjeux, qui est la nôtre aujourd'hui, mais qui n'était pas forcément la leur, à l'exception, bien sûr, d'une minorité d'abolitionnistes convaincus, comme Grégoire, qui en fera un de ses grands combats tout au long de sa vie. J'en reparlerai. Mais aussi de Brissot, qui était le fondateur de la Société des Amis des Noirs et qui n'a jamais cessé d'évoquer la question jusque dans ses mémoires, rédigées en prison sous la Terreur. Michelet, d'ailleurs, une parenthèse, Michelet imaginait Brissot écrivant ses mémoires uniquement préoccupé de cette cause. Je vous cite Michelet. Croirait-on que l'infortuné qui écrit sous la guillotine ne s'occupe que d'une chose sur laquelle il revient toujours, l'esclavage des Noirs. Indifférent à ses fers, il ne sent peser sur lui que les fers du genre humain. Bon, c'est beau, c'est un peu excessif, c'est Michelet. N'oublions pas non plus que la question de l'esclavage apparaissait indissociable d'une autre question, celle du statut des libres de couleur, c'est-à-dire les esclaves affranchis, libres donc, et leurs descendants, et surtout les métis, qu'on appelait les mulâtres, qui étaient parfois de riches propriétaires, par exemple lorsqu'ils avaient hérité des biens de leur père, mais qui étaient de plus en plus victimes à la veille de la Révolution de ce qu'on appelait le préjugé de couleur, c'est-à-dire une discrimination exercée par les Blancs à leur égard, et qui luttaient désormais, donc c'est libre de couleur, luttaient pour être reconnus comme citoyens de plein droit. Plusieurs d'entre eux menèrent ce combat à Paris et à Saint-Domingue, notamment Julien Raymond, Vincent Auger, ce dernier essayant même de susciter un soulèvement sur l'île. Il s'agissait de savoir si la couleur de peau, et pas le statut d'esclave, mais la couleur de peau elle-même était un obstacle à la citoyenneté. Et c'est donc bien l'universalisme des droits qui était directement concerné. Après plusieurs échecs, ils obtinrent un premier succès avec le décret du 15 mai 1791, par lequel les personnes de couleur ayant deux parents libres obtenaient la parfaite égalité des droits. Le décret fut salué comme un pas important vers l'égalité raciale. Voyez par exemple cette gravure que vous reconnaissez peut-être, puisque je l'avais choisie pour le programme, pour illustrer le programme de ce cours. On ne connaît pas sa provenance exacte. La Bibliothèque nationale de France la date de 1794 et elle est parfois utilisée pour illustrer l'abolition de l'esclavage. Mais de toute évidence, c'est une erreur. C'est une erreur, le contexte est encore celui de la monarchie, comme en témoignent les fleurs de lys. L'allégorie de la raison ou de la justice, sur la tête de laquelle vous voyez ici... ça marche pas du tout, pardon, on va revenir en arrière. Bon. C'est pas grave. Vous voyez là-haut donc les fleurs de lys. Donc vous avez la raison ici, l'allégorie de la raison, qui met à niveau un officier blanc et un homme noir sous le slogan « Les mortels sont égaux, ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence. » L'homme noir, qui s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme, tient à la main le décret du 15 mai et vous remarquerez d'ailleurs qu'il est presque nu, étrangement, ce qui montre la persistance des stéréotypes au moment même où on se flatte et on s'enorgueillit de les avoir dépassés. Hein, puisque, en réalité, évidemment, la grande majorité des libres de couleur ayant deux parents libres n'étaient pas du tout... là, on a l'impression justement que c'est un esclave. Or, ce n'était pas du tout leur statut et leur situation. Et d'ailleurs, à Saint-Domingue, les Blancs firent tout leur possible pour empêcher l'application du décret. Et ce n'est finalement que par le décret du 4 avril 1792 que les révolutionnaires voteront la pleine égalité de tous les libres de couleur. Mais il est vrai qu'à cette date, l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue avait commencé et que l'Assemblée espérait constituer un front des libres contre les esclaves. Mais c'était déjà trop tard. En effet, en août 1791, donc, les esclaves de la des grandes plantations de la plaine du Nord, le cœur de l'économie sucrière de l'île, autour du Cap, se soulevèrent. En quelques jours, des dizaines de plantations furent détruites et incendiées. La répression fut féroce, ne fit qu'accroître la détermination des esclaves. Ceux-ci étaient infiniment plus nombreux, ils représentaient 90% de la population à Saint-Domingue à la veille de la Révolution. La Révolution, qui débutait alors, la Révolution cette fois de Saint-Domingue, qui débutait alors, ne s'acheva que 13 ans plus tard, en janvier 1804, avec, je le disais tout à l'heure, la déclaration d'indépendance d'Haïti, après la défaite du corps expéditionnaire envoyé par Bonaparte. Il est essentiel de bien comprendre que cette révolution n'est pas une simple révolte d'esclaves, un soubresaut périphérique de la Révolution française, mais bien une révolution à part entière, la première révolution ayant conduit à l'existence d'un État noir indépendant. Comme l'écrivait Aimé Césaire, je cite, « Il n'y a pas de révolution française, il n'y a pas de révolution dans les colonies françaises. Il y a dans chaque colonie française une révolution spécifique née à l'occasion de la Révolution française, branchée sur elle, mais se déroulant selon ses propres lois et avec ses objectifs particuliers. » Alors dès lors, il faut poser la question, quels étaient les objectifs particuliers des esclaves révoltés? La réponse semble évidente, la liberté. Mais en est-on bien certain? Plusieurs témoignages indiquent que, du moins au début, une partie des insurgés exigeait une amélioration de leurs conditions de travail et notamment des journées de repos. En réalité, même si nous savons que l'insurrection avait été préparée et qu'elle a réussi assez vite à s'organiser, il est très difficile de savoir quelles étaient exactement les intentions des insurgés et même celles de leurs chefs, faute de sources écrites, de proclamations politiques, de pamphlets, de débats, si bien que les historiens et les historiennes débattent depuis longtemps sur les motivations des insurgés. Certains y voient une résistance presque naturelle à la domination et à l'oppression, l'affirmation d'un désir de liberté universel de la part des opprimés. C'est l'universalité insurgente décrite par l'anthropologue Massimiliano Tomba, dont je vous avais déjà parlé. D'autres insistent sur le rôle des religions africaines, et notamment du vaudou, et mettent en avant la cérémonie religieuse qui eut lieu à Bois Caïman quelques jours avant le début de l'insurrection. Ils mettent aussi en avant les effets de la culture politique africaine, fondée à la fois sur la liberté et la guerre, car il ne faut pas oublier qu'une grande partie des esclaves était arrivée récemment, souvent du Congo, et qu'ils gardaient une mémoire très vive de leur vie antérieure, ainsi qu'une expérience du combat. D'autres historiens ou historiennes mettent l'accent sur l'influence des idéaux de la Révolution française qui avaient circulé sur l'île et qui nourrissaient de nouvelles attentes en termes de liberté et de justice. Il est probable que les différents éléments se soient mêlés dans des proportions variables. Ainsi, un insurgé fait prisonnier dans les premières semaines et immédiatement fusillé portait sur lui des pamphlets imprimés en France sur les droits de l'homme et le caractère sacré de la Révolution, mais aussi un fétiche composé de cheveux et d'osselets et un petit sac rempli d'amadou et de phosphate. Comme le commente l'historien Laurent Dubois dans son Histoire de la Révolution haïtienne, Les Vengeurs du Nouveau Monde, je le cite, les lois de la liberté, de quoi charger un fusil et une puissante amulette pour invoquer l'aide des dieux, une irrésistible combinaison. Laurent Dubois, justement, est sans doute l'historien qui a le plus insisté sur la façon dont les esclaves, non seulement à Saint-Domingue, mais aussi à la Guadeloupe, se sont réclamés des droits de l'homme, tout en leur donnant une signification plus concrète à travers leur expérience de l'asservissement, au point, dit Laurent Dubois, de renouveler fondamentalement le sens de l'universalisme. Pourquoi ? Eh bien, en intégrant à l'universalisme des droits de l'homme le refus de toute distinction de race et en faisant de l'abolition de l'esclavage non pas une question secondaire comme en métropole, mais un principe fondamental. Les esclaves des Antilles auraient ainsi produit, dans le contexte très particulier de cette société esclavagiste, mais traversée par les échos des révolutions américaines et françaises, ce que Dubois appelle des lumières enchaînées, Enslaved Enlightenment en anglais. Un document passionnant va dans ce sens, sur lequel je voudrais m'arrêter un instant. C'est une lettre de juillet 1792, signée par trois chefs de l'insurrection, Jean-François, Biassou et Belair. Lettre adressée aux autorités et aux citoyens de la partie française de Saint-Domingue. Cette lettre, dont ni l'original ni une copie n'ont été retrouvées, a été en revanche publiée à Paris, quelques mois plus tard, en février 1793, par le Créole Patriote, un journal dirigé par un curieux personnage, Louis Milsan de Musset, qui se faisait appeler Louis Milsan Créole, qui était un colon de Saint-Domingue, qui avait été longtemps hostile à l'esclavage, hostile à l'abolition, avant de se convertir en quelque sorte à la cause des esclaves. C'est le moment où il arrive à Paris et crée ce journal, le Créole Patriote. En mai 1794, il sera condamné à mort au plus fort de la Grande Terreur. Et lui-même avait trouvé la lettre dans un mémoire justificatif publié le mois précédent par le colonel Comfort, qui lui-même avait été présent à Saint-Domingue à l'été 92. Cette lettre a été longtemps oubliée, négligée, inconnue même des spécialistes, puis publiée dans les annales historiques de la Révolution française en 1998 par Nathalie Piquionne. Mais son authenticité, faute de manuscrit original, son authenticité était contestée. Le texte a parfois été présenté comme le manifeste révolutionnaire haïtien, mais certains historiens, en particulier un des grands spécialistes d'Haïti, David Geggus, ont relevé quelques incohérences formelles. Je ne rentre pas dans les détails, mais récemment, de nouveaux éléments semblent plutôt montrer que la lettre est authentique, ou du moins que son authenticité est plausible, comme le dit Jeremy Popkin, qui a repris tous les éléments du dossier dans un article de la revue Slavery and Abolition de 2022, dont vous avez ici la référence. Or, si cette lettre nous intéresse tout particulièrement, c'est que les auteurs font référence à plusieurs reprises et très ouvertement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour mettre leurs interlocuteurs face à leurs contradictions. Je cite, « Avez-vous oublié ?» Et ici, donc, les auteurs, ces chefs esclaves, insurgés de l'insurrection des esclaves, s'adressent aux représentants, aux commissaires venus de métropole, mais aussi aux colons, membres de l'Assemblée. « Avez-vous oublié que vous avez formellement juré la Déclaration des droits de l'homme qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit et que les droits naturels sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression ? Si donc, comme vous ne pouvez le nier, vous avez juré, nous sommes dans nos droits et vous devez vous reconnaître parjure. » Donc, les chefs des esclaves insurgés mettent en avant le modèle que représente la Révolution française en se réclamant ouvertement du droit naturel. Ils en déploient les implications les plus universelles, non seulement en rejetant l'esclavage, mais en affirmant un principe de fraternité humaine au-delà des différences de l'épiderme qui n'ont aucune pertinence dans l'ordre moral et politique. Je cite encore la lettre. « Nous sommes donc vos égaux en droit naturel. Si la nature se plaît à diversifier les couleurs dans l'espèce humaine, il n'est pas un crime d'être noir ni un avantage d'être blanc. » La lettre n'hésite pas à dénoncer amèrement au nom de l'humanité la façon dont la France révolutionnaire a perpétué illégalement un système barbare d'exploitation coloniale. Je cite encore, « Depuis longtemps, nous avons été les victimes de votre cupidité et de votre avarice. Sous vos coups de fouet barbares, nous vous accumulions les trésors dont vous jouissiez dans cette colonie. » L'universalisme des droits est retourné contre la France révolutionnaire dans un geste qui rappelle cet universalisme critique des Lumières que nous avions rencontré, par exemple chez Diderot, par exemple chez Bernardin de Saint-Pierre, par exemple chez Rénal, à cette différence près que ce sont désormais les esclaves eux-mêmes qui s'approprient ce discours et lui donnent ainsi une plus grande portée. Les revendications sont à la fois assez radicales, puisque la lettre réclame l'abolition complète de l'esclavage, et relativement modérées, puisque les auteurs proposent que les anciens esclaves retournent sur les plantations pour travailler pour leurs anciens maîtres, mais cette fois avec un salaire. Cela dit, même en considérant que la lettre est authentique, il faut se garder d'y lire le projet révolutionnaire des esclaves domingois, mais plutôt un moment de leurs revendications. D'autres documents antérieurs, datant des premiers mois de l'insurrection, donnent une image différente des revendications, alors soit plus radicale, par exemple prônant totalement la fin du système des plantations, voire la disparition des colons blancs, soit plus modérée, se contentant d'un adoucissement des conditions des esclaves. Et par ailleurs, il faut noter que Biassou et Jean-François eux-mêmes ne sont pas restés sur cette ligne. À la différence de Toussaint Louverture, ils ne se sont jamais ralliés à la France républicaine, même après l'abolition de l'esclavage. Biassou, Georges Biassou, par exemple, est resté fidèle aux Espagnols, ne cessant de se revendiquer catholique et royaliste. Il reste que la lettre atteste que la Déclaration des droits de l'homme était connue des chefs de l'insurrection et qu'ils n'hésitaient pas à s'en réclamer et même à la citer, vous avez vu, très précisément. D'autre part, la lettre montre une grande habileté diplomatique. Elle est destinée aux commissaires envoyés par l'Assemblée pour pacifier l'île, mais elle s'adresse aussi aux colons. Je cite, « Ne voyez plus en l'homme noir qu'un de vos frères, soyez juste envers lui, alors vous verrez la prospérité régner dans cette contrée, alors vous jouirez de vos revenus. » Enfin, les auteurs se tournent vers les libres de couleur pour leur rappeler le martyre de Vincent Auger, je l'ai cité tout à l'heure, exécuté en 1791 par les colons, et les appeler à la solidarité raciale dans un contexte où le décret leur accordant l'égalité des droits venait d'être connu dans l'île et était en train de créer aussi une alliance entre les blancs et les libres de couleur. Donc, encore une citation de cette lettre. « Vous, citoyens de couleur, n'oubliez jamais que si vous tenez ce titre respectable, citoyen, ce n'est que par le travail des hommes que vous voulez égorger. Souvenez-vous qu'ils sont vos frères, vos parents, et que leur sang coule dans vos veines. Souvenez-vous qu'un de vos braves frères fut victime pour vous. » Et c'est évidemment Vincent Auger. Alors, une telle habileté politique a conduit certains historiens à supposer que Toussaint Louverture pouvait être l'auteur de la lettre, mais jusqu'à présent, il n'y a guère de preuves. Il reste qu'on ne prête qu'aux riches, comme vous le savez, et Toussaint, ancien esclave affranchi en 1775, est en effet la figure majeure de la période, le héros incontestable des années 1790 à Saint-Domingue, réussissant à unifier l'île sous son autorité grâce à son talent militaire et à son charisme politique. Le destin de Toussaint Louverture a souvent été exalté. C.L.R. James, historien et intellectuel marxiste originaire de Trinidad, qui a écrit un des plus beaux livres sur la révolution haïtienne, publié pour la première fois en 1938, voyait en lui un Jacobin noir, le titre du livre hein, s'appelle justement Les Jacobins noirs, un révolutionnaire nourri par la lecture de l'abbé Raynal, s'efforçant d'importer et d'acclimater dans les Caraïbes les idéaux républicains de la Révolution française, précurseur des grandes luttes de décolonisation et d'émancipation du XXe siècle. Plus récemment, Sudhir Hazarezing l'a présenté comme un chef militaire charismatique et un homme politique habile et pragmatique, cherchant à assurer l'autonomie de Saint-Domingue sans rompre avec la France pour en faire un foyer de liberté où cohabiteraient blancs, noirs et métis. Bref, le promoteur d'un universalisme cosmopolite, ouvert et tolérant, un héros pour notre temps, selon les mots d'Hazarezing. Mais Toussaint Louverture n'est pas seulement le héros victorieux de la révolution des esclaves, il est aussi un héros vaincu, capturé et déporté, mort, vous le savez, tragiquement, au fort de Joux, dans le Jura, en avril 1803, victime d'abord de la trahison des Français, mais victime aussi peut-être de sa confiance dans la Révolution française, de sa conviction que l'avenir de Saint-Domingue passait par le maintien de liens avec la France. C'est pourquoi, sans doute, ces dernières années, l'attention s'est portée davantage sur les figures de l'indépendance haïtienne, notamment Jean-Jacques Dessalines, qui fut le premier chef d'État d'Haïti. Ancien lieutenant de Toussaint, vainqueur des Français à la grande bataille de Vertières, en novembre 1803, Dessalines proclame l'indépendance le 1er janvier 1804. Quelques mois plus tard, il se fait sacré empereur, mais son règne est court, car il meurt assassiné en 1806. De fait, 10 ans après la lettre de Biassou, Jean-François et Belair, un autre document, plus célèbre et parfaitement authentique pour le coup, permet d'envisager le sens que les acteurs donnaient à la révolution haïtienne. C'est justement la déclaration d'indépendance d'Haïti qui affirme le refus net de toute discrimination raciale, mais aussi de toute forme de colonialisme et de conquête. Haïti devenait ainsi le premier État abolitionniste. Dans cette perspective, l'indépendance d'Haïti apparaît comme le symbole d'un universalisme plus élevé, fondé non seulement sur la proclamation abstraite des droits de l'homme, mais sur la condamnation sans appel du système colonial, le système colonial dévoilé, selon le titre d'un livre de Baron de Vasté. Baron de Vasté est un des premiers grands écrivains haïtiens du tout début du XIXe siècle, contemporain de la Révolution et de l'indépendance, infatigable défenseur de la légitimité d'Haïti, mais aussi de la grandeur de l'histoire africaine, auquel les historiennes Marlène Daut et Doris Garaway ont consacré récemment des travaux importants. Cet universalisme, fondé sur les combats pour l'émancipation des esclaves, ancré aussi dans un désir de liberté antérieur à la Révolution, a par la suite nourri tout un courant de la pensée noire dans les Amériques et au-delà, car les intellectuels et historiens haïtiens au XIXe siècle étaient lus et commentés en Europe. Alors c'est une thèse extrêmement intéressante que j'avais déjà évoquée, vous vous en souvenez peut-être il y a 15 jours, celle de ces lumières noires issues de la révolution haïtienne et issues des combats des abolitionnistes noirs nord-américains. Elle est extrêmement intéressante parce qu'évidemment elle permet de pluraliser les lumières en identifiant d'autres courants, d'autres branchements, d'autres traditions intellectuelles. Il faudra y revenir plus longuement en reprenant patiemment les textes de ces lumières noires, et c'est une question qui nous occupera certainement l'année prochaine, car je compte prolonger cette série de cours en mettant l'accent sur le XIXe siècle pour suivre les héritages multiples des langages de l'universel. Pour en rester aujourd'hui à la révolution haïtienne elle-même, il faut toutefois se garder et se méfier d'en donner une vision trop idéalisée. Alors, comprenez-moi bien, je dis ça, il ne s'agit pas de reprocher quoi que ce soit aux combattants pour la liberté et l'indépendance, encore moins de relativiser les responsabilités de la France, que ce soit les atermoiements révolutionnaires, le rétablissement de l'esclavage sous Napoléon, les terribles violences exercées par Leclerc et Rochambeau en 1802-1803, ou encore les indemnités colossales, 150 millions, imposées militairement par la France en 1825 en échange de la reconnaissance d'Haïti et qui ont très durablement entravé le développement de l'économie et de l'État haïtien. Mais pour autant, il n'est guère utile, je crois, de remplacer un mythe par un autre, celui de l'universalisme de la Révolution française par celui de l'héroïque Révolution haïtienne. Il s'agit plutôt d'être attentif aux contradictions qui traversent l'une et l'autre, y compris dans leurs relations mutuelles. Et il serait dommage de laisser dans l'ombre plusieurs questions qui ont été soulevées ces dernières années dans l'historiographie, notamment l'autoritarisme incontestable des chefs de la Révolution haïtienne, depuis Toussaint Louverture jusqu'à Dessalines, puis au roi Henri Christophe, qui lui succède au nord de l'île. Autoritarisme sans doute explicable par la situation de guerre, mais qui, néanmoins, a laissé des traces dans la culture politique haïtienne. De même, certains auteurs, aujourd'hui, insistent moins sur l'universalisme dont la Révolution haïtienne serait porteuse que sur l'idéal d'autodétermination et d'indépendance, c'est-à-dire la construction d'un projet national spécifique fondé sur des héritages spécifiquement africains. Enfin, un point important qu'il faut garder en vue est l'importance des divisions sociales et politiques au sein de la population noire de Saint-Domingue, puis d'Haïti, notamment entre les métis libres déjà avant la Révolution, parfois extrêmement riches, parfois propriétaires de plantations et d'esclaves, et qui se percevaient comme les nouveaux maîtres de l'île, surtout après la Révolution, et d'autre part les anciens esclaves qui ne voulaient pas seulement la liberté civile, mais voulaient aussi échapper au système de la plantation au profit de micro-exploitations vivrières. Et là, il y avait un conflit économique et social sur l'organisation économique d'Haïti. Et au sein même des anciens esclaves, les conflits était souvent important entre les bossales, ce qu'on appelait les bossales, qui étaient nés en Afrique et qui étaient arrivés en fait à Saint-Domingue juste avant la Révolution, quelques années auparavant, et les créoles, qui eux étaient nés dans l'île, qui parlaient français et qui étaient accoutumés depuis beaucoup plus longtemps, acculturés depuis beaucoup plus longtemps à la culture coloniale française. Ces tensions et ces conflits sont un des grands arguments du livre fondamental de Michel Rolfe Trouillot sur la Révolution haïtienne, intitulé « Silencing the Past », publié en 1995 et qui n'est toujours pas traduit en français, alors qu'il est un des grands classiques des études sur Haïti et plus largement un très grand livre sur l'écriture de l'histoire. Le titre renvoie à la thèse la plus célèbre du livre, celle d'une révolution dont le souvenir en dehors d'Haïti, aurait été recouverte par une chape de silence. Mais l'argument de Trouillot était plus complexe. Le silence n'était pas seulement celui de l'historiographie occidentale, c'était aussi celui de la mémoire haïtienne elle-même. Et le contexte dans lequel écrivait Trouillot, on a tendance à l'oublier, qui a été obligé de s'exiler sous la dictature de Duvalier, explique que son approche de l'histoire haïtienne était tout sauf héroïque. L'histoire, écrivait-il, est toujours un pouvoir sur le passé. Et des silences s'ajoutent aux silences, effaçant par exemple le souvenir des conflits entre les chefs noirs pendant la Révolution haïtienne. Le symbole de ces silences, à ses yeux, était le palais de Sans-Souci, grandiose construction du roi Christophe, aujourd'hui à l'état de ruine, et dont le nom semble, bien sûr, pour un esprit européen, évoquer le château, le fameux château de Frédéric II, à Potsdam, mais qui était aussi le nom d'un homme, aujourd'hui totalement oublié, le colonel Jean-Baptiste Sans-Souci, qui était un des chefs des esclaves bossales et qui, avec ses troupes, refusait l'autorité de Dessalines et de Christophe pendant la guerre contre les Français. et que Christophe a fait assassiner en 1803. Une guerre dans la guerre, des silences au milieu des silences, l'histoire n'est jamais univoque ni neutre. Alors il est vrai toutefois que la grande thèse de Trouillot, celle qui a fait le succès de son livre, porte sur l'incapacité des Européens à comprendre la révolution haïtienne, à en prendre la mesure, à l'intégrer au grand récit de la modernité, à côté des révolutions américaines et françaises, à en faire un événement historique. Une révolution menée par des esclaves était proprement inintelligible, impensable, écrit Trouillot. Et par conséquent, l'historiographie l'a ensuite longtemps passé sous silence. Thèse puissante qui demande peut-être à être nuancée, et il nous manque toujours, pour le faire, il nous manque toujours une étude systématique sur la réception de la révolution haïtienne dans l'opinion publique européenne. On peut en revanche revenir sur le contexte de l'abolition de l'esclavage en 1794. Certains spécialistes de la révolution ont voulu y voir le triomphe de l'universalisme révolutionnaire fondé sur le droit naturel. Rappelant que Robespierre avait pris position dès 1791 contre l'esclavage et pour les droits des hommes de couleur, il voit dans ce résultat, en 1794, le fruit d'un long combat venu de la philosophie du XVIIIe siècle, poursuivi par les Jacobins et achevé par la Convention montagnarde de 1794. Il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai dans cette vision des choses. Et, par exemple, on peut rappeler que Santonax, qui est, j'en ai pas parlé, c'est lui le commissaire qui, à Saint-Domingue, en 1793, prend la responsabilité, alors qu'il en a, ça a excédé ses pouvoirs, d'abolir l'esclavage dans l'île, eh bien, Santonax, on dit toujours qu'il l'a fait sous la pression des événements, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que Santonax était un abolitionniste convaincu, fidèle à ses convictions, et depuis 1790, il écrivait dans la presse des articles en faveur de l'abolition. Mais on doit aussi ne pas négliger que l'universalisme républicain qui s'affirme en 1793 à Saint-Domingue et en 1794 en France se produit dans un contexte qui est d'abord celui d'un sursaut patriotique contre la Grande-Bretagne. L'abolition n'a pas seulement répondu à des motifs humanistes, mais d'abord à la volonté de transformer les esclaves en soldats républicains. Beaucoup d'entre eux furent en effet de fervents républicains convaincus que la Révolution française était l'instrument de leur propre libération, du moins jusqu'au moment où, sous le consulat, ils durent déchanter. Certains reprirent le vocabulaire qui associait l'universalisme à la lutte de la France contre la Grande-Bretagne. Mais en France même, à la Convention, le 6 février 1794, donc lors du vote du décret d'abolition, Danton prend la parole, Danton déclare « Représentant du peuple français, jusqu'ici, nous n'avons décrété la liberté qu'en égoïste et pour nous seuls, mais aujourd'hui, nous proclamons à la face de l'univers, et les générations futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle. » On pourrait être tenté d'opposer la générosité des principes républicains de l'an 2 avec la frilosité de 1789, un universalisme conséquent à un universalisme égoïste, pour parler comme Danton. Mais il faut aussi citer la suite du discours, qu'on ne fait pas. Danton poursuit « Lançons la liberté dans les colonies, c'est aujourd'hui que l'anglais est mort. » Note, on applaudit. « En jetant la liberté dans le nouveau monde, elle y portera des fruits abondants. Elle y poussera des racines profondes. En vain, Pitt et ses complices voudront, par des considérations politiques, écarter la jouissance de ce bienfait. Ils vont être entraînés dans le néant. La France va reprendre le rang et l'influence que lui assurent son énergie, son sol et sa population. Il s'agit toujours de sauver les colonies et de maintenir le rang de la France. L'universalisme de la liberté est au service, une fois de plus, de la grandeur de la nation. » Les années suivantes, sous le Directoire, seront celles du grand progrès, du grand projet civilisateur de la colonisation nouvelle, notamment en Afrique. 5 ans plus tard, Étienne Laveau, qui avait été gouverneur de Saint-Domingue au moment de l'abolition, qui avait entretenu des relations de confiance avec Toussaint Louverture, et qui était un jacobin convaincu, prononça un discours pour célébrer l'anniversaire du décret de février 1794. Il décrivait l'abolition comme une conquête de la République au nom de l'espèce humaine. Mais pour préciser immédiatement que cette conquête de la liberté et de l'égalité était un surcroît de puissance pour la France. Je cite, « Dans nos colonies, tout est français. Ce système d'unité absolue fera pâlir de rage nos ennemis déconcertés et dès lors partira de la métropole le signal de la prospérité coloniale. » La dialectique subtile de l'universalisme entre extension des droits de l'humanité et unité de la nation française était à l'œuvre. Nous allons la retrouver dans les prochaines séances. Deux mots, s'il vous plaît. Vous avez bien tenté, mais vous n'allez pas m'empêcher comme ça de finir. Deux mots, s'il vous plaît, pour conclure donc la séance d'aujourd'hui, en vous rappelant qu'il n'y aura pas cours la semaine prochaine et que nous nous retrouverons donc dans 15 jours. La révolution haïtienne est de toute évidence un événement, ou plutôt une série d'événements indispensables pour penser les héritages complexes de l'universalisme. Encore faut-il éviter deux tentations. La première, vous l'avez compris, est une lecture franco-centrée dans laquelle les droits universels auraient été proclamés à Paris en 1789 pour se diffuser ensuite progressivement dans le monde, et notamment à Haïti. En réalité, les esclaves de Saint-Domingue ont dû arracher leur liberté par l'insurrection, la violence et la guerre, il faut le rappeler. La deuxième lecture est une lecture excessivement romantique qui remplace un mythe révolutionnaire par un autre et qui voudrait voir dans la révolution haïtienne la réalisation sans reste, sans tâche, d'un idéal égalitaire et émancipateur, une sorte d'universalisation de l'universel. Alors pour ma part, quand je veux éviter les généralisations, eh bien je pense au personnage de T. Noël dans l'inoubliable héros du royaume de ce monde, le court mais puissant roman de l'écrivain cubain Alejo Carpentier. T. Noël est un esclave travaillant sur une plantation près du Cap, un homme simple, témoin plutôt qu'acteur des bouleversements de son temps. Et à travers son regard, on parcourt l'histoire de la révolution haïtienne depuis la révolte de Macandal sur fond de vaudou, 30 ans avant la révolution, jusqu'à la chute du roi Christophe et son suicide en 1820. À la toute fin du livre, T. Noël est un vieillard. Il vit reclus dans les ruines de l'ancienne plantation de son maître où il est revenu vivre, entouré des objets qu'il a récupérés lors du pillage de Sans Souci, si bien qu'il possède dans sa chambre sans toit une table de boules, un poisson-lune naturalisé, une boîte à musique, et j'aime tout particulièrement cette notation, je cite, « trois volumes de l'encyclopédie sur lesquels il s'asseyait d'habitude pour manger des cannes à sucre. » T. Noël, inquiet de voir arriver les arpenteurs du nouveau régime et après avoir vainement cherché refuge au sein du règne animal, accepte sa condition d'homme. Il se remémore sa vie, ses espoirs et ses illusions dans un dernier moment de lucidité. Et je vais vous quitter sur cette citation. Il revit, un peu longue, il revit les héros qui lui avaient révélé la force et la richesse de ses lointains ancêtres africains, lui faisant croire à un avenir meilleur. Il se sentit vieilli sous le poids de siècles innombrables, une lassitude cosmique de planètes lourdes de pierres tombées sur les épaules décharnées par tant de coups, de sueurs et de révoltes. T. Noël avait assumé sa part des tâches héréditaires, et bien qu'il fût parvenu au dernier degré de la misère, il laissait à son tour cet héritage intact. Sa chair avait fait son temps, il comprenait à présent que l'homme ne sait jamais pour qui il souffre ou espère. Il souffre et il espère, et il travaille pour des gens qu'il ne connaîtra jamais, qui à leur tour souffriront, espéreront, travailleront pour d'autres qui ne seront pas heureux non plus, car l'homme poursuit toujours un bonheur situé au-delà de ce qui lui est donné en partage. Mais la grandeur de l'homme consiste précisément à vouloir améliorer le monde, à s'imposer des tâches. À dans 15 jours.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.